Samedi 20 avril, voici Entre nous en rediffusion. Mes invités aujourd'hui, Michel Nadeau, Frédéric Bérard, Nancy Gamache. Bonjour tout le monde, je m'appelle Yves Houd et c'est avec plaisir que je vous convie à cette émission hebdomadaire. J'espère que vous y trouverez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai à vous la présenter. Nous allons passer 90 minutes ensemble, mes invités, vous et moi. Dans la dernière partie de cette émission, il s'agira d'une réflexion sur l'éthique et la spiritualité chez le personnel soignant. C'est avec Nancy Gamache, conseillère en développement à la Faculté de théologie et de sciences religieuses. Le Salon du Livre nous donne lieu à d'étonnantes rencontres. Frédéric Bérard, avocat, auteur, chroniqueur, nous offre « On nous tuera doucement ». C'est un recueil de chroniques sur des sujets de l'actualité. Dans sa chronique, Hélène Huot s'intéresse aux mots empruntés aux langues étrangères, nous explique l'origine du mot « forum ». Dans ma chronique sur l'actualité, il sera question de la crise au Moyen-Orient. Et en ouverture, Michel Nadeau, co-directeur général et directeur artistique de La Bordée, nous présente la prochaine saison du Théâtre de La Bordée. Bonne émission tout le monde. Michel Nadeau, bonjour.
Bonjour.
Comédien, auteur, metteur en scène, co-directeur général et directeur artistique du théâtre. Qui est votre co-directeur général?
Ma co-directrice, c'est Rosie Bellé, donc qui est co-directrice générale et directrice administrative depuis 2 ans. En fait, qui est arrivée ici quand j'ai pris la direction de l'aborder. Ce qui était important pour moi, c'est que ce soit un théâtre populaire, donc ancré dans son milieu. Et on a ouvert un poste de médiation culturelle, donc une personne qui fait les liens entre la communauté et le théâtre. Puis c'était Rosie qui avait été embauchée. Et puis le poste de direction administrative s'est ouvert à un moment donné. Et puis elle a fait le saut.
Vous présentez cette année la 48e saison du Théâtre de l'Abordée. Avez-vous des souvenirs des premiers balbutiements de cette troupe-là dans les années 75, 76
oui,
à peu près?
Oui, absolument. Oui, je me souviens même du premier spectacle qu'il y a eu quand ils ont ouvert leur théâtre en 79, qui s'appelait Publicité monéphonée. Donc l'Abordée, c'est des gens qui ont terminé le conservatoire en 76. Moi, j'ai entré en 77. Et c'était les grands, quand on était étudiant, c'était les grands, c'était bon. Et ils ont décidé, envers et contre le ministère des Affaires culturelles de l'époque, d'ouvrir une salle, d'ouvrir un théâtre. Le ministère voulait pas. Ils ont fait pareil. Ils ont fait une corvée, les comédiens allaient. Et ils ont ouvert sur la rue Saint-Jean, en haut de ce qui était anciennement Musique d'Auteuil. Je sais plus qu'est-ce que c'était. Ben, c'était Archambault. Et maintenant, je pense une...
Pâtisserie, boulangerie.
Oui. Mm-hmm. Mais en haut de ça, oui, c'était la première bordée. Et ils faisaient de la création collective à l'époque, c'était ça. Puis des textes québécois, des textes canadiens.
Je me souviens de Si les îles avaient des ailes.
Si les îles avaient des ailes, c'était pas un spectacle d'eux, mais qui était allé chez eux.
Ah, d'accord. Oui. Ça, je me souviens. C'était absolument inconfortable, cette salle-là, mais peu importe.
Oui, c'était très inconfortable.
Oui. Mais le fait d'avoir formé une compagnie, ce groupe de finissants-là, de cette année-là, le fait d'avoir formé une compagnie, ça a donné l'idée presque toutes les années suivantes. Les finissants forment une compagnie, dont vous autres?
Oui, absolument. C'était la première compagnie, En fait, c'était un groupe qui était très, très solide, très serré, une cohorte très serrée. Donc, surtout les finissants, je pense qu'il y en a une là, qui n'ont pas rejoint le groupe.
Oui, il y avait Diane Jules, entre autres.
Diane Jules n'était pas là. Je pense que Germain Houde était là au tout début, mais il n'est pas resté très longtemps.
C'est pas resté longtemps, oui.
Mais les autres, oui. Et c'était la première troupe qui ont dit, nous, on reste à Québec, on s'établit à Québec, on fait une troupe, on va ouvrir un théâtre éventuellement et tout. Et pas longtemps après, en 80, il y a eu le Théâtre Repère. C'était Jacques Lessard qui était directeur artistique, dont j'étais membre aussi. Après ça, il y a eu le Théâtre Nouveau Parking en 86. Et il y a plein de théâtres qui sont mis à SME à partir de ça. Mais l'Abordée, c'était vraiment la première gang qui ont décidé de rester ensemble et de faire... Il y avait du théâtre avant, le Théâtre du Vieux-Québec, des trucs comme ça. Mais le fait d'une compagnie, d'une cohorte, là, ça, c'est l'Abordée qui a initié ça.
Vous avez présenté donc la 48e saison, la 2024-2025. Là, il y a un certain nombre de présentations, il va falloir que vous me démêliez. Il y a des 5 à 7.
Oui.
J'ai compris qu'il y en avait 2.
Oui, en ouverture et en fermeture de saison.
En ouverture et fermeture de saison. Que sont les 5 à 7?
Les 5 à 7, en fait, c'est un, comme son nom le dit, c'est un spectacle qui a lieu de 17h30 à 18h30. Donc, les gens arrivent à 5 heures, mais bon. Et c'est dans la salle de répétition. On accueille 80 personnes. C'est des courtes pièces de 45 à 60 minutes. En général, 60 minutes. Relativement légères, en général. Et donc, ça coûte 25 $, et avec 25 $, il y a la pièce, t'as droit à une consommation, alcool ou pas, et des grignotines. Et l'idée, c'est que après le travail, souvent, il y a des gens qui viennent, il y a des amis, ils terminent le travail, ils s'en viennent à l'aborder, prennent un petit apéro, ils voient une pièce de théâtre, et après, ils s'en retournent chez eux. C'est un concept qui est écossais. À l'origine, ça s'appelle a play a pie and a pint. En tout cas, bon, peut-être pas le bon ordre. Et c'était le théâtre, c'est Denis Bernard à la Licorne, qui était à la Licorne à ce moment-là, qui a ramené ce concept-là à la Licorne, qui ont fait. Et comme ça marchait bien, j'ai dit, il n'y en a pas à Québec. Nous, comme on est propriétaire de notre lieu, on pouvait le faire. Et c'est la quatrième saison, cette saison-ci, ou cette quatrième, ouais, l'année prochaine. Et c'est ça. Donc, c'est une formule très, très conviviale. On t'assied une table, on boit notre bière, on écoute la pièce. Comme je dis, c'est pas lourd, c'est court. Donc, pour les gens qui habitent loin, ou qui veulent pas reprendre l'auto, et bon, etc., ou les gens qui disent, moi, une petite formule comme ça. Et on a beaucoup de, je pense qu'on a à peu près 25% de gens qui étaient jamais venus à l'aborder, qui viennent là. Donc, ça permet de développer un peu le public aussi. Oui, des gens, c'est la formule idéale.
Et qu'est-ce que vous présentez à ce moment-là? La pièce, c'est une pièce courte?
C'est des pièces courtes, c'est des créations souvent. Il y a quelquefois des traductions parce que, comme il y a une tradition un petit peu plus en Angleterre de ça, donc il y a un répertoire en britannique de courtes pièces. Donc, quelquefois, c'est une traduction d'une pièce britannique ou des créations. On aura une création en fin de saison de Marily Picknell, celle qui a donné I Matt revenir cette année. Donc, c'est une création de Marily. La première, ça va être Pas maintenant, du Théâtre Bistouri. Théâtre Bistouri, c'est une compagnie qui se spécialise un peu dans les 5 à 7. Ils font à Montréal beaucoup. Donc, ça va être la troisième fois qu'ils viennent dans nos 5 à 7 à l'aborder. Donc, en général, c'est ça. C'est des pièces à des solos à 2-3 maximum personnages. Et voilà, c'est souvent des comédies ou des pièces relativement légères.
La programmation pour la soirée, c'est 7 spectacles. Au total,
ouais.
7
ouais.
spectacles, mais je pense que votre programmation à vous, c'est 5. Il y en a 2 qui s'ajoutent comme des invités.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on a nos productions en général, nous, c'est toujours 5. Donc, l'aborder, produit, c'est-à-dire, quand on dit la produit, c'est-à-dire, c'est notre argent, c'est on paye, là, c'est nos choix, c'est, on engage des metteurs en scène, des comédiens et tout. Donc, c'est des spectacles de l'aborder. Donc, ça, on en a 5 cette année, l'année prochaine, et on a toujours. Et aussi, comme on n'occupe pas tout l'espace, tout le calendrier, donc on accueille des pièces de l'extérieur. En général, on accueille 2 ou 3 qui viennent. Par exemple, on vient de terminer Et puis par la fenêtre, nous pourrons voir les chants du Théâtre du Bic, qui sont venus 2 semaines. Donc souvent, au mois de novembre, décembre, on accueille 1 ou 2 compagnies de l'extérieur. Puis au printemps aussi, on a ces espaces-là. C'est ce qu'on appelle un accueil dans le jargon. Donc c'est des compagnies qui tournent et qui arrêtent chez nous pour 1 semaine ou 2. Mais la saison prochaine, il y a une exception parce que on va reprendre Grosse Île 1847, qui avait été un très gros succès l'année dernière, à tel point qu'on a refusé du monde à la fin, qu'on s'est dit, tiens, c'est assez exceptionnel, on va le reprendre pour... C'est pour ça qu'elle n'est pas dans l'abonnement. C'est une de nos productions, mais qui n'est pas dans l'abonnement. C'est pour ça que c'est un petit peu particulier cette année. Mais voilà, donc en général, c'est 5 productions à nous, 5 créations à nous, et un accueil ou 2.
Pour Grosse Île, vous réussissez à regrouper exactement l'équipe...
Sauf une personne. Une comédienne qui avait un engagement déjà ailleurs, donc
qui va s'en placer. Allons-y de vos 5 productions à vous, là, sous le thème, est-ce qu'on peut appeler ça thème, mais clash.
Clash, oui.
Tiré de l'anglais, disons-le, mais qui
signifie... Mais accepté.
Accepté en français. Exactement. Et qui sous-tend ou qui signifie... Une collision,
un choc, en fait, qui est le propre du théâtre, hein, en général. Roméo et Juliette,
oui.
Mais les deux familles se détestent, il y a un choc. Tout le théâtre, Germaine Lauzon dans Les Belles-Sœurs gagne des thèmes, puis ses belles-sœurs la volent.
Ça crée la jalousie des autres.
Donc, le choc, le conflit, le clash, c'est un peu essentiel au théâtre. Et en fait, ce qui sous-tend nos 5 spectacles, c'est qu'il y a, je trouve, moi, depuis quelque temps, on le sent de plus en plus, il y a une sorte de rencontre de plaques tectoniques, c'est-à-dire qu'il y a un choc qui a entre il y a deux mondes qui s'affrontent finalement. Il y a un nouveau monde qui est en train de s'installer, c'est-à-dire une nouvelle façon de nouveaux enjeux. Par exemple, on peut penser, disons, au changement climatique et tous les bouleversements. Présentement, on dit, bon, il faut des voitures électriques, il faut, bon, on prend présentement concrètement des mesures contre le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle qui s'installe dans nos vies, les nouvelles moralités que j'appellerais en guillemets, beaucoup de guillemets woke, là, c'est-à-dire, bon, toutes ces nouvelles valeurs-là au nom de l'inclusion qui fait que tout à coup, même ça a des répercussions dans l'orthographe, tout ça. Donc, puis il y a ce monde-là qui s'installe. Et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais c'est quand même des nouvelles données. Puis l'ancien monde qui est là, qui résiste, qui accepte, et il y a ça. Donc les cinq pièces déclinent un peu cette thématique-là.
La première, ce serait la fameuse Femme Québec.
Excusez-moi, non, la première, c'est l'Assemblée.
L'Assemblée?
L'Assemblée, qui est une coproduction avec Porte-Parole, qui est la compagnie de Porte-Parole. C'est ceux qui ont, en fait, popularisé le théâtre documentaire. Il avait fait Gémidro. Et l'Assemblée, en fait, c'est un théâtre documentaire aussi, citoyen, en fait, c'est comment quatre personnes qui ont des idées diamétralement opposées peuvent faire quelque chose ensemble. Donc, on a invité quatre citoyens de Québec, quelqu'un, une militante de gauche, un homme d'affaires libertarien, plutôt libertarien, quelqu'un avec un travailleur d'origine immigrante avec des valeurs plutôt traditionnelles, un jeune Wendat qui travaille donc à Wendake. Et on a parlé de conservatisme, de féminisme, de wokisme, de toutes ces choses-là, mais en fait de tous les enjeux qui polarisent. Donc ces gens-là sont. Et c'est un vrai souper. Et nous, on a gardé le souper qu'on a enregistré et on fait un travail d'édition, c'est-à-dire que ce qui a duré 4 heures, on a fait un spectacle d'une heure et demie où on voit les vrais enjeux entre ces personnes-là. C'est 4 comédiens qui vont apprendre le texte de ces vrais citoyens-là.
D'accord.
Mais il n'y a pas de fiction, là. C'est juste le type qui est organisé. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant le spectacle, à un moment donné, les acteurs sortent de scène et on invite 4 spectateurs à tous les soirs à venir s'asseoir à table. Le décor, c'est une table, comme nous, comme on se parle, à venir s'asseoir à table et à discuter des enjeux dont les comédiens ont parlé.
Donc, eux vont pas improviser.
Ils vont chacun dire, ben, moi, je suis pour, moi, je trouve que ça va trop loin, je suis pas d'accord avec ceci, je suis d'accord avec cela. Et au bout de 15 minutes, on dit merci, retournez à vos places et les comédiens reprennent le spectacle.
Vous pensez que très spontanément, il y aura 4 mains qui vont se lever pour
oui,
aller?
Oui, parce que c'est un spectacle qu'ils ont créé. C'est un concept qui existe depuis quelques années. Ils l'ont fait à Montréal. Ils l'ont fait, je pense, en Allemagne, aux États-Unis, en Lettonie. Et à chaque soir, on est toujours un peu sur le grill. Mais à tous les soirs, ça fonctionne.
Ah, ben c'est aimé se placer en position de déstabiliser.
C'est ça, oui.
Et donc, ça, c'est du 17 septembre au 12 octobre.
Oui.
Et viennent après la fameuse Femme Québec.
La fameuse Femme Québec de Christina Moschini. Christina Moschini nous a donné le 5 à 7, S'aimer m'impacter, qui est un solo joué par Ariel Charest, qui avait eu un gros succès, qu'on a fait l'année dernière et repris cette saison-ci. Et là, c'est une pièce, en fait... elle s'intéresse beaucoup au monde des cabarets des années 60. Donc, c'est l'histoire, en fait, c'est une jeune femme qui décide de faire une émission pilote à MaTV. Et elle s'associe à un YouTuber, donc une vedette de YouTube,
ouais.
Une chaîne. Mm-hmm. Et c'est un jeune YouTuber non binaire, très, très, très dans le courant de ça, et qui décide d'interviewer une artiste oubliée des cabarets des années 60-70. Et pour essayer de la remettre au goût du jour, si on veut. Et donc, c'est deux marginaux, parce que lui est marginal aussi, et elle, c'est une marginale de l'époque. Et c'est la rencontre de ces marginaux-là, mais avec chacun leur tabou, chacun leur vocabulaire, chacun leur sensibilité. Donc, elle, qui a gagné sa vie dans les cabarets avec faire des numéros avec des gauchos, puis des jokes sur les femmes, et etc. Puis lui, qui est très, très fluide dans son genre, et etc. Il y a beaucoup de mots qu'il dit pas. Et là. Donc, comment ces gens-là se rencontrent? Et à travers ça, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le parcours de cet artiste-là, c'est qu'on assiste à des grands moments d'histoire du Québec. Parce qu'il y a beaucoup de nos vedettes, la culture populaire, moi je pense par exemple à Denise Filiatro, Dominique Michel, toute cette génération-là, eux, ils ont commencé leur métier dans les cabarets,
oui.
avec l'âge que vous avez.
Oui.
vous êtes comme moi, on est de la même génération. Ces gens-là, ils venaient des cabarets, puis ils sont allés à la télévision, à la radio. Mais il y en a plusieurs qui sont pas montés à la télé, qui sont restés dans les cabarets pour un paquet de raisons. Et c'est ce monde-là. Donc, c'est le monde des marginaux, mais du cabaret. Puis comment tous ces gens, tout ce... Il y avait des milieux très nationalistes, très séparatistes aussi. Donc, c'était très politique en même temps. Donc, c'est un portrait du Québec, de ce Québec underground des cabarets-là.
29 octobre au 23 novembre pour ce spectacle. Ouais. On se retrouve ensuite en janvier. Donc, il y aura au mois de décembre Grosse-Île.
Grosse-Île, oui.
1847. On se retrouve en janvier avec Dis-moi qui tu es.
C'est l'inframonde. Exactement.
C'est l'inframonde en janvier. Oui, j'ai pourtant une liste devant moi, mais je saute des lignes.
Sur des paragraphes. Oui, l'inframonde, c'est un spectacle d'une jeune compagnie qui s'appelle L'homme qui a vu l'ours et qui a créé le spectacle à premier acte cette année, l'année passée. Et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui m'a beaucoup troublé. L'inframonde, en fait, c'est une pièce américaine. Et c'est un genre de pièce d'anticipation. Donc, ça se passe dans un futur proche. Et l'idée, c'est que Internet, maintenant, dans ce monde-là, est devenu l'inframonde. Donc, les gens ont y accès, mais on y a accès pas juste par l'écran, mais on est capable de sentir qu'est-ce qui se passe, donc, sensoriellement. Donc, par le biais d'un avatar, on rentre dans ce monde-là et on travaille dans l'inframonde. Les jeunes vont à l'école dans l'inframonde. Donc, il y a la réalité, mais tout se passe carrément dans cet inframonde-là. Et là-dedans, il y a un site qui est un site où des gens peuvent assouvir des instincts ou qui, moralement, ne sont pas acceptés dans la société d'aujourd'hui. Et la question que ça pose aussi, c'est s'il y a des gens qui ont des déviances, qu'on appelle des déviances dans le monde dans lequel on vit, et qui peuvent les exprimer, qui peuvent les vivre dans un monde parallèle, est-ce que c'est une bonne chose qu'ils puissent s'en débarrasser, s'en purger là-dedans, ou c'est un danger? Et quand j'ai vu la pièce, je m'étais dit, bon, ben, OK, ça va, je comprends, l'inframonde, bon, OK. Mais finalement, le questionnement est tellement subtil, est tellement intéressant, il vient nous chercher qu'à un moment donné, on est obligé de réfléchir à nos propres, ça nous remet en question par rapport à ça.
Et de prendre position?
Pardon?
De prendre position?
De prendre position, oui, à tout le moins d'y repenser une deuxième fois.
D'accord.
Et ça se passe dans un... Alors, c'est très doux. Alors, ça se passe dans un univers victorien avec une serre et, bon, des jeunes filles en fleurs et, bon, etc., etc. Mais en même temps, c'est une intrigue policière parce qu'il y a un détective qui veut trouver, finalement, le coupable. Donc, c'est super intéressant.
14 janvier au 8 février. Et là, viens, justement, dis-moi qui tu es.
Oui.
Je te dirai ce que tu dis.
Oui. C'est une comédie de Simon Boudreau. Simon, c'est un auteur... qui s'intéresse beaucoup à la comédie.
Ouais. Est-ce que c'est lui qui a déjà présenté
Comment je suis devenu musulman Je suis un produit.
Voilà.
Lui sert beaucoup de la comédie pour parler des sujets qui sont très 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 délicats. Au lieu de rentrer dans le drame et fait ça. Donc dis-moi que c'est une pièce à tableau. Donc on pourrait dire une pièce à sketch. Ce sont 13 courts tableaux. Il parle de situations, justement, qu'on vit présentement. Quand je parlais du nouveau monde qui s'installe, par exemple, il y a un homme qui a une relation avec un genre d'avatar, justement, sur son ordinateur, là. C'est un logiciel. Et donc, il y a une relation, comme le film Her, je sais pas si vous avez déjà vu. Et tout à coup, il y a une mise à jour, puis il retrouve plus sa blonde numérique. Bon, il fait venir un réparateur. On est dans une salle d'employés, il y a des employés lors d'une pause. Il y a quelqu'un qui, il y a plein de mots qu'on peut pas dire. Évidemment, il y a le mot en haine, mais il y a d'autres mots qu'il faut faire attention. Puis il veut tellement pas blesser personne. Il utilise plein de synonymes, c'est que plus personne ne comprend rien de ce qu'il dit. Bon, vous voyez un peu ce sont plein de petits sketchs comme ça sur des... En fait, l'idée, c'est qu'il y a peut-être des choses où on est socialement un peu crispé, puis peut-être que la comédie va nous aider à reprendre le dialogue.
25 février, 22 mars, oui. À peu près. Oui. La dernière de cette série, c'est Jean-Philippe Barry-Guerrard.
Ça c'est un accueil aussi, ça c'est l'accueil qu'on fait venir. Donc vous êtes animal c'est le PAP, une compagnie montréalaise, et donc ils vont venir seulement 2 semaines et ça, vous êtes animal, c'est intéressant, c'est que Jean-Philippe aussi a fait un genre de c'est un jeu intellectuel, il dit si Darwin avait sorti sa théorie de l'évolution en 2023, alors il dit voici l'homme descend du singe et ouais. Qu'est-ce que ça aurait fait? Et là, tout à coup, il fait ça. Et là, les réseaux sociaux s'emballent. Ça n'a pas de bon sens. C'est extraordinaire. Des gens disent, ah, OK, s'il y a des animaux supérieurs, s'il y a une évolution, donc il y a des races supérieures, des races inférieures. Ah, vous êtes raciste. Et là, l'idée, c'est que Darwin, à un moment donné, est obligé de se rétracter. Ça fait tellement de bruit qu'il n'est pas capable d'imposer. On peut même pas parler de cette théorie-là tellement il y a tellement de gérants d'estrade.
Tout se mêle. Ça se termine l'année avec Godot.
En attendant Godot, oui, de Samuel Beckett, grand chef-d'œuvre de la dramaturgie. Alors,
peut-on le renouveler ou bien aussi on doit nécessairement le présenter dans sa forme la plus traditionnelle?
C'est un peu des deux. En fait, oui, c'est parce que il y a ça, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que c'est Olivier Normand qui fait la mise en scène. C'est sûr qu'on a, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de contraintes dans le sens qu'on, c'est ça, c'est la pièce, c'est Godot, c'est un classique et tout. Et c'est une pièce qui a été créée en 1948, donc au milieu du 20e siècle. Quand on va la faire, on va être en 2025, donc au premier quart du 21e siècle. Et l'idée, c'est que finalement, on sent qu'on est à la fin de quelque chose et c'est qu'on a quatre hommes vieillissants. C'est la fin des boomers aussi, hein. Présentement, on est sur la fin de ça.
Oui.
Donc, c'est quatre clochards dans la soixantaine, qui sont en train de terminer. Et à la fin de Godot, à chaque acte, il y a un jeune garçon qui vient dire, Monsieur Godot est pas venu aujourd'hui, mais il va venir demain. Ce qui fait que les deux clochards reviennent et reviennent et reviennent. Donc, l'idée, c'est qui ce jeune garçon-là? C'est quoi cette affaire? C'est quoi? Et aussi, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? C'est qui Godot aujourd'hui pour nous?
Oui. Rapidement, terminant, il faut que vous terminiez cette saison-ci.
Oui.
Il reste un spectacle.
Un spectacle, Nos Cassandres, de Anne-Marie Olivier, qui commence la semaine prochaine, donc mercredi prochain, la première. C'est sur le docteur Joanne Léu, qui est une femme de Charlebourg, qui était une petite chinoise de Charlebourg. Ses parents avaient un restaurant chinois. Et elle est devenue pédiatre, elle a été présidente internationale de Médecins sans frontières. Et c'est une docu-fiction, si on veut. Carrément documentaire, mais c'est beaucoup inspiré de son parcours. Et l'idée, finalement, Nos Cassandres, c'était celle de cette personnage de la mythologie qui disait la vérité dans l'avenir, mais personne ne la croyait. Et par rapport à tout ce qu'elle a vécu et la COVID, incidemment, Dr. Liu nous a dit des choses que peut-être on n'a pas écoutées, peut-être qu'on aurait eu avantage.
On aurait peut-être avantage à l'écouter. Oui, merci beaucoup. Michel Nadeau, directeur artistique du Théâtre La Bordée, bonne saison.
Je vous remercie beaucoup.
Ces mots venus d'ailleurs avec Hélène Huot.
Bonjour Hélène Huot.
Bonjour Yves.
Cette semaine, à Ces mots venus d'ailleurs, vous nous parlez de forum qui n'est pas un édifice, soit dit en passant, ou qui peut être un édifice.
Ben, vous avez raison, qui ne l'est pas et qui peut l'être. Le mot forum, c'est un mot latin qui veut dire place publique. Donc, au départ, ce n'est pas un bâtiment, donc c'est pas une création, là, disons, d'architecture. Il y en a plusieurs qui ont
pensé... Est-ce qu'il y a une équivalence avec l'agora?
Oui. On peut dire que chez les Grecs, l'agora puis le forum chez les Romains ont des fonctions qui se ressemblent, c'est-à-dire de place publique, de place où il y a beaucoup de monde, on se rencontre, on discute, et... au tout début où on fait quand même des affaires. Alors, on va y aller. Aujourd'hui, là, un forum, c'est, j'allais dire principalement, mais peut-être pas, c'est d'abord une réunion. On se réunit pour débattre d'idées, de projets. Et les plus beaux exemples, qui sont quand même assez connus de tout le monde, vous savez, le forum économique de Davos, qu'on appelle couramment le forum de Davos. Ça fait déjà quelques années, à chaque année qu'il se réunit. Et il a suscité, si on veut, la création d'un autre forum, un petit peu comme une alternative plus sociale, qui est le Forum social mondial. Deux très grands forums internationaux qui se réunissent, qui débattent de très grandes idées susceptibles d'influencer la planète, l'économie mondiale, l'altermondialisme, la solidarité, dénoncer le capital et le néolibéralisme dans un cas, l'encourager dans l'autre. Alors, c'est des exemples, ce ne sont pas des lieux. Le Forum de Davos, il se tient à Davos. Davos, c'est une station de ski là en Suisse, quelques centaines de kilomètres de Genève. Lui, il se tient à Davos, mais le forum économique, le forum social, pardon, là, lui, il peut...
Il est itinérant.
Il a commencé, je pense, au Brésil, mais ce qui est important à tenir, c'est la notion de réunion. Un autre sens aussi qu'on a au forum, puis qui, ce sens-là, est encore en vigueur aujourd'hui, c'est un lieu. Et un peu partout dans le monde, vous avez des forums. Souvent, ce sont des places commerciales, alors comme des halles. Alors là, il y en a, je ne peux pas toutes les énumérer, dans de très nombreuses villes du monde, il y a des forums. Il y a eu celui peut-être le plus connu, le Forum des Halles à Paris. Et puis, notre forum.
Qui n'existe plus, mais notre forum de Montréal.
Exactement, qui est devenu d'ailleurs aussi, je pense, un centre commercial. Hein,
Oui, des cinémas, transformé en partie dans un cinéma, oui.
Il y a une autre acception du mot forum qui est assez nouvelle, qui retient l'attention d'ailleurs beaucoup, ce sont les forums informatiques. Les gens participent à un espace virtuel pour échanger, poser des questions, donner des réponses sur des questions d'intérêt commun. Alors, les forums informatiques, c'est assez répandu. C'est pas comme un échange là en temps réel. Là. Vous posez une question ou vous échangez, quelqu'un vous lit puis vous répond. Non, l'information, les questions, c'est stocké, ça peut être consulté en temps différé si on veut. Alors, les forums informatiques, ils sont nombreux, ils réunissent virtuellement beaucoup de gens sur des questions d'intérêt commun. Alors ça, c'est vraiment les sens qu'on peut rencontrer aujourd'hui au mot « forum ». Maintenant, si on pourrait s'intéresser à l'origine, ce qu'était le forum. Dans l'Antiquité romaine, le forum, c'est une place allongée. Une place au tout début où on fait des affaires, c'est-à-dire c'est un marché. Les producteurs viennent proposer leurs marchandises. Au départ, chacun tient son
kiosque.
Son kiosque, c'est ça. À un moment donné, il s'installe des gens qui vont être des grossistes. Bon, autour du forum, c'est pratique parce que l'emplacement du forum, pour le dire, c'est déterminant. C'est toujours près du centre-ville. Et peu à peu, le forum prend une vocation qui est plus qu'économique, est une vocation qu'on pourrait dire sociopolitique. On vient là pour discuter, prendre des nouvelles, donner son opinion. Et pour toutes les institutions politiques, c'est important d'avoir comme une place au forum. Le forum, il débouche sur le Capitole. Et il est grand et il est libre aussi, on peut dire. C'est le grand avantage de ces places-là. Il y a eu à Rome même des forums, selon la succession là, des empereurs, mais il y avait aussi un forum dans les autres villes de l'Empire romain, effectivement. Une ville romaine, je pense, devait avoir son forum. Ça fait partie un petit peu de la philosophie de la vie urbaine. Alors, il y a eu une transformation donc progressive pour avoir un lieu public, un lieu stratégique. Et si on veut se rappeler un petit peu les expressions dont on a déjà parlé quand on disait voué aux gémonies, par exemple, le fameux escalier des gémissements où on exposait les cadavres des suppliciés, ben, c'était très important, cet escalier-là, il était très visible du forum. En fait, ce qu'il y avait d'important dans la vie urbaine devait être en lien avec le forum. Alors, comme l'achalandage est grand, il y a beaucoup, beaucoup d'affluence, les gens viennent se promener, ben, on pouvait voir, enfin, la démonstration de la justice et de l'ordre. Puis, il y a une autre expression aussi que je voulais vous rappeler, qu'on a déjà abordée quand on disait que tous les chemins mènent à Rome. Eh bien, dans l'Empire romain, on avait établi, l'Empire était grand, il y avait beaucoup de chemins, on avait établi des bases, des espèces de bornes là, kilométriques, qu'on dirait aujourd'hui. Ce sont des bornes, on les appelait des bornes millaires. Millaires, pourquoi? De mille. Un mille romain était à peu près 1,4 kilomètre d'aujourd'hui. Sur ces bornes-là, on indiquait, on était à l'endroit donné, on indiquait la distance entre cet endroit et Rome. La ville.
Le kilomètre zéro.
Oui, exactement. Et où était le kilomètre zéro? Sur le forum. Le kilomètre zéro, on l'appelait pas. On va donner une appellation un petit peu plus chic, là. On l'appelait le millaire d'or. Et il était installé sur le forum. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que le forum était à l'origine un lieu physique, un espace. Le sens a évolué pour devenir espace intellectuel, espace virtuel, mais garde toujours un grand point commun de partage, d'échange et d'une certaine manière de vie publique. C'est le cœur de la ville, c'est le centre, et puis comme on a besoin d'informations, on n'a pas encore tout à fait les journaux et les réseaux qu'on connaît aujourd'hui. Alors, c'est l'endroit où les gens viennent s'informer de ce qui se passe dans l'Empire, dans la ville, oui, et dans l'Empire, et en même temps donner leur opinion. Et les acceptions actuelles du mot forum sont quand même pas si éloignées de la fonction qu'on avait dans l'Empire romain.
Merci, Hélène Huot. Vous pouvez consulter le site de Radio Galilée, c'est au www.radiogalilée.com. Vous y trouvez des informations sur la programmation et le nom des invités que je reçois le mardi. Vous pouvez consulter vos émissions ou écouter plutôt vos émissions en direct et ou les réécouter à la carte. C'est un site facile à consulter que je vous recommande à tous et à toutes pour vous tenir à jour. Mon invité aujourd'hui, il est diplômé en droit et en philosophie. Il tient régulièrement des chroniques d'opinion sur des sujets de l'actualité. Ça ressemble à quelque chose que vous devez connaître. Il a collaboré, entre autres, à l'émission de Denis Lévesque à TVA, au journal Métro à Montréal. Je l'ai rencontré au Salon du Livre de Québec. Je dois vous avertir que les conditions de l'enregistrement n'étaient pas optimales. Je m'en excuse, mais quand même, je vous présente le résultat de cette rencontre, somme toute, assez agréable. Frédéric Bérard, bonjour.
Bonjour.
Permettez-moi de réduire au minimum votre feuille de route. Impressionnant CV, Frédéric Bérard, avocat, diplômé en philosophie de l'Université Laval, professeur, auteur, membre de la Fédération des journalistes du Québec, chroniqueur, conférencier ici et en Europe. Vous avez été sur le conseil d'administration de l'Office de la langue française. Mmh. Il y a quelque chose de marathonien dans votre façon de fonctionner. Est-ce que vous êtes sportif?
Non, j'aime beaucoup le sport. À titre, d'amateur classique qui se promène d'un stade à l'autre. Est-ce que j'aurais intérêt à en faire moi-même davantage? Très clairement, comme vous pouvez voir.
En dehors de tous ces emplois que vous occupez, quels sont vos loisirs?
Mes loisirs?
Ouais.
Ça va être une drôle de réponse peut-être, mais je suis un ami des animaux.
Vous avez des chiens?
J'ai deux chiens. Et j'ai, ça c'est deux chiens, c'est assez classique, mais j'ai aussi deux cochons. George pour George Orwell et Albert pour Albert Camus. Ce sont des cochons domestiques. Puis j'ai deux chats aussi maintenant avec ma copine. Enfin, c'est une énorme ménagerie. Alors, je vous dirais que dans mes loisirs, lire avec mes animaux dans les bois, parce que j'habite notamment à Saint-Michel-des-Saints, j'ai un chalet là-bas sur le bord de l'eau. C'est franchement un des hobbies, si je peux dire ça comme ça, par excellence pour moi.
Vous me permettrez de dire que j'ai l'impression que vous tirez sur tout ce qui bouge.
Ah oui?
Vous allez dans toutes les directions. De la société. Avez-vous une ligne d'observation de votre tir qui fasse que quand vous abordez un sujet, on pourrait à peu près savoir de quel côté vous allez pencher?
Ouais, je suis pas très subtil ni très imprévisible, ça je vous l'accorde. Je m'en cache pas, hein. J'assume tout ce que je dis, tout ce que j'écris. Ce qui peut, évidemment, ce qui n'empêche pas que je puisse me tromper, ça va de soi. Le dénominateur commun de tout ça, je vous dirais, C'est l'injustice, honnêtement, à mon sens.
C'est l'avocat qui parle, là.
En fait, vous savez quoi? Je suis devenu avocat vraiment par défaut. Ça m'a jamais tant intéressé de le devenir. C'est une profession que j'aime bien, ça va, c'est sympathique et tout. Mais tant aussi longtemps qu'il y a une injustice à combattre. Et quand je parle d'injustice, je parle pas nécessairement, obligatoirement, du classique de la veuve et de l'orphelin, bien que ça en fasse partie, mais aussi de dénoncer le mensonge, de dénoncer la fourberie, de dénoncer la bêtise, de dénoncer l'espèce de manière qu'on a maintenant, de propension qu'on a d'un point de vue politicien à vouloir maquiller les preuves, essayer de dire un peu n'importe quoi, et puis essayer de faire adopter la cassette populiste, quoi, essentiellement. Et ceci vient me, vous l'avez constaté, je présume, là, vient me chercher au plus profond de mes tripes, et je ne fais pas exprès, hein, c'est pas un spectacle que je donne. Mes amis vont vous dire que je suis, ça me fait plaisir de l'entendre. Je pense que je suis exactement la même personne en privé qu'en public, et ça vient avec des qualités, mais aussi beaucoup de défauts. J'ai jamais joué de jeu dans les médias, j'en joue pas, ça m'intéresse pas. Par contre, je crois. Puis je le fais naturellement, mais je crois que, c'est pas à moi de le dire évidemment, mais qu'on doit sortir de cette torpeur actuellement qui est celle de, beaucoup trop de gens, à mon sens, veulent faire du média ou du bouquin ou peu importe quoi, pour pas trop déplaire, bon, faut être gentil, faut être consensuel, parce que c'est important. Ce qui fait en sorte qu'on a, d'un, la langue de bois, il y a absolument rien qui se dit, et ben la justice se propage à une vitesse intersidérale.
Supposons qu'on imagine une semaine où, dans l'actualité, arrive la nouvelle à l'effet que les médias sociaux, les tablettes, les écrans, c'est catastrophique pour la jeunesse. On apprend qu'un homme d'un certain âge, lourdement handicapé, est mal reçu, d'une certaine façon, il ne reçoit pas les soins dont il aurait besoin dans un centre hospitalier où il se présente, et on apprend que le premier ministre du Québec aurait l'idée d'un référendum sur l'immigration. Vous avez à faire une chronique. Lequel des trois vous choisissez?
Quelle belle question. Les écrans, moins parce que je m'y connais pas, pour être honnête. Bon, je veux dire, faudrait être un peu stupide pour croire qu'il n'y a pas un impact délétère. Là, on s'entend bien, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Là, je laisse ça aux spécialistes. Le référendum sur l'immigration, lui, vient me chercher drôlement, évidemment, parce que ça, on parlait d'injustice, de fourberie, c'en est une. Puis quand je parle de fourberie, c'est pas au sens fort du terme, tout le temps, on s'entend bien, mais quand je parlais de maquiller un peu la réalité, en connaissez-vous un État fédéré dans le monde qui a tous les pouvoirs en matière d'immigration? Ça n'existe pas, là, c'est de la poudre aux yeux, c'est ridicule. Pensez-vous que François Legault va y mettre des passeports canadiens? Je veux dire, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et la réalité, c'est que cette histoire-là est absolument faussée du fait que on part de la prémisse que les immigrants sont dangereux pour le français. Jean-François Leberge l'a dit encore récemment sur les réfugiés, et ainsi de suite. L'autre sujet qui viendrait me chercher, par contre, en fait pas par contre, mais aussi, peut-être plus, c'est celui de du pauvre homme en situation de handicap. J'ai un grand ami qui s'appelle Laurent Morissette.
Oui.
Ce que j'allais dire, c'est que ça me rend émotif, parce que Laurent Morissette, qui est un frère pour moi, il est en situation de handicap, puis je pleure pas parce qu'il est en situation de handicap, mais c'est un des grands leaders du Québec sur la question. Il s'implique notamment au Réplique, partout sur les médias sociaux. Et Laurent m'a fait réaliser l'ampleur de l'injustice subie par les personnes en situation de handicap. Et cette histoire-là, je vous avoue bien franchement que j'ai à peine osé la regarder, tellement ça vient me chercher. Comment une société riche comme la nôtre, en 2024, parce que oui, nous sommes une société riche, là, suffit de sortir du Québec, se promener un peu pour le réaliser. Comment une société riche comme la nôtre, en 2024, puisse accepter un traitement du genre? Et ces gens-là, qui sont, je prends l'exemple de Laurent, d'une intelligence, et je pèse mes mots là, d'exception, un moteur pour la société, se font barber par nos institutions publiques, parce que on sait qu'ils sont vulnérables, entre guillemets, dans l'optique où ils vont pas sortir médiatiquement parlant, les gens s'en fichent. Et ça, quand on parle d'injustice, comme ce que je vous disais d'entrée de jeu, ça vient franchement me chercher. Je vous dirais que la chronique serait probablement rédigée sur ce
sujet. Ça devrait être sur ce sujet-là. Est-ce que vous vous considérez, Frédéric Bérard, comme un lanceur d'alerte?
Je sais pas. Peut-être, mais faut croire que je suis pas très bon, hein, parce que pas...
Vous n'arrivez pas à faire bouger l'aiguille?
Faut croire qu'il n'y a pas beaucoup d'impact à ce que je dis. Il y a une apathie ultra généralisée. La fenêtre se déplace toujours davantage vers l'absurde. Vous avez un candidat à la présidentielle américaine qui a cité 6 fois Hitler en 2 mois, et puis personne réagit.
C'est lui.
C'est Trump, hein, c'est pas grave. Non, mais imaginez-vous, n'importe quel candidat à la présidentielle cité Mein Kampf sans conséquence il y a de ça 10-15 ans à peine, ça aurait été le feu, là. Et là, aujourd'hui, bon, on l'accepte. Bon, c'est pas plus grave que ça. Donc, il y a absolument jamais rien de grave. Il y a jamais rien de problématique. Elle arrive à un moment donné où, je crois que les démocraties occidentales sont réellement en danger actuellement. L'extrême droite est au pouvoir en Europe, dans plusieurs pays, est aux portes du pouvoir dans la plupart des autres pays. Et ce qu'on nous répond, c'est oui, mais l'extrême gauche. Ben, moi, j'aimerais bien qu'on me définisse, un, c'est quoi l'extrême gauche, et deux, où vous voyez un impact délétère concret de l'extrême gauche, là, à part peut-être les deux d'Hochelaga qui ont fait un graffiti sur un poste de police la semaine dernière. Je la vois pas, moi, l'extrême gauche en Occident. Dans les universités, oui, OK, ça va, dans des bouquins, bien sûr, mais au pouvoir. Quel pays occidental est aux prises avec l'extrême gauche à ce moment-ci? J'en vois pas. Et le classique, hein, vous savez, puis il y a un lien dans tout ça, là. C'est que Trump encore disait la semaine dernière, il va y avoir une guerre civile aux États-Unis, mettant aux prises des républicains et les wokistes d'extrême gauche, donc représentés par Obama. Mais c'est parce que c'est une construction politicienne de A jusqu'à Z qui tient pas la route, et puis ça fonctionne. Moi, on me traite souvent de communiste. Je suis un communiste, mais ça sort d'où ces conneries-là? Et on revient à l'époque du McCarthyiste, et ce même candidat-là promet une guerre civile, publie des photos sur ses réseaux sociaux de Joe Biden ligoté, bâillonné dans une boîte de véhicule, et puis, c'est pas grave, hein, c'est Trump, mais c'est de toute beauté. Alors moi, j'ai beau répéter cette cassette-là ad nauseam, très clairement, il n'y a absolument rien qui se passe. Puis bon, moi, je me couche le soir, je me dis, qu'est-ce que je vous dis? J'ai fait ce que j'avais à faire, puis c'est tout.
Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, que vous ne faites pas bouger les choses, et pourtant, la revue Les Libraires vous considérait en 2016 comme l'un des 10 essayistes de moins de 40 ans qui pouvaient transformer le Québec.
Vous avez fait vos recherches, c'est bien. Je sais pas, j'ai de l'influence. Puis vous savez quoi? Je m'arrête pas vraiment à ces choses-là, honnêtement. Je veux dire, j'imagine qu'on fait ces choses-là pour être capable de faire bouger des trucs. C'est ce que j'essaie de faire, de toute évidence. Mais d'évaluer ce succès-là est très, très, comment je voudrais dire, est très, très abstrait. C'est très difficile de le quantifier. Puis je vous dirais franchement qu'il faut pas s'arrêter à ces trucs-là. Moi, je fais ce que je pense que j'ai à faire, avec un succès nécessairement très mitigé. Mais encore là, on s'en fiche. L'important, c'est pas ça. Vous savez qu'Albert Camus disait qu'il y a deux types d'humains, hein. Il y a ceux qui espèrent en la condition humaine, et ceux-ci sont des fous. Et ceux qui désespèrent, et ceux-ci sont des lâches. J'ai décidé d'être un fou, essentiellement.
Bon, c'est un bon choix. Paru chez Somme Toute, récemment, au cours de l'hiver, votre essai « On nous tuera doucement ». Chronique sur nos dérives médiatiques, politiques et environnementales, en sous-titre de cet ouvrage. C'est un ouvrage qui rassemble un certain nombre des chroniques que vous aviez écrites pour le journal Métro. Mm-hmm. C'est un journal qu'on retrouvait dans la région de Montréal. Mm-hmm. J'imagine que vous ne faites pas toujours... Bon, disons, c'est un journal populaire, c'est lu un peu par tout le monde, et particulièrement ceux qui prennent les transports en commun. J'imagine que vous faites pas l'unanimité avec vos prises de position. Comment est-ce que vous réagissez à ceux qui s'opposent?
Vous voyez, cette expression-là me fait rire un peu. Ne pas faire l'unanimité, qui l'a fait?
Personne.
Bon, de un. Deux, je suis tellement content de pas la faire. Parce que la pire chose, disait Churchill, qui pourrait vous arriver, c'est de faire l'unanimité. Si vous faites pas l'unanimité, si vous avez des ennemis, mais si vous avez des ennemis, c'est parce que vous avez essayé de brasser des trucs, alors tant mieux. Bon, évidemment, il y a des manières de faire. Je répète, ça veut pas dire que j'ai raison, ni dans la manière, ni dans le fond, sur le fond de les choses, ça va de soi. Mais je considère essentiel cette nécessité, je considère essentiel cette volonté de brasser les cartes un peu et ne pas tenter de tomber dans l'espèce de consensualisme très propet, comme plusieurs de mes collègues font parce qu'ils veulent garder leur job, parce que bon, évidemment, on peut survivre plus longtemps, médiatiquement parlant, mais tant mieux pour eux, tant mieux pour elles. Je les critique pas précisément non plus, c'est un choix qu'on fait. Moi, j'ai jamais décidé de faire des médias. En fait, c'était pas une volonté pour moi de faire ni des médias, ni des bouquins, c'est un accident d'histoire. Je me destinais pas à faire ça du tout, du tout. Et quand j'ai commencé en 2011-12, je vous dirais, je m'étais fait une promesse à moi-même, qui était celle-ci. Le jour où j'écrirai ou je dirai un truc que je ne pense pas, pour le simple plaisir ou besoin de « bon, c'est mieux comme ça », alors je sortirai de la sphère publique parce que franchement, c'est pas moi. Puis je répète encore, mais quand je me couche le soir, je dors bien parce que j'ai fait ce que je pense que j'avais à faire.
Mais dans certaines circonstances, bon, ta question de faire l'unanimité et de pas faire l'unanimité, on peut ne pas faire l'unanimité et ça reste... relativement convivial, mais parfois, quand on fait pas l'unanimité, on se fait attaquer.
Oui.
Et peut-être que vous avez eu quelques nuits à moins bien dormir.
Non, ça me dérange pas, ça. Ça me dérange pas du tout. Ben, évidemment, je fais pas exprès pour créer des conflits pour le plaisir d'en créer. Mais vous voyez, dans le bouquin, par exemple, j'ai deux de mes cibles, là, Lisée et Bocoté. Les gens me disent, comment tu fais?
Il y a peu de chances que de ces deux personnages viennent des menaces, comme vous en avez eu.
Des menaces, ouais, ben, j'en ai eu souvent, puis j'en ai encore. Mais bon, vous savez, aujourd'hui, l'univers politique ou la sphère publique, là, ça va ensemble, est tel que si vous essayez de faire quoi que ce soit et vous ne recevez jamais de menace, c'est pratiquement chez la menace. Et je suis pas en train de défendre le mécanisme, vous avez bien compris, mais et fait maintenant partie, du quotidien d'une personnalité publique. Et c'est problématique, on se comprend bien. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant là-dedans du fait des médias sociaux qui ont parfaitement galvanisé cette espèce de haine de un de l'autre qui était jusqu'alors relativement discrète, hein, en quelque sorte? Attaquer quelqu'un publiquement, en 99, là, c'était plus compliqué, là. Aujourd'hui, n'importe qui derrière un clavier dans son sous-sol peut profaner des menaces de mort. Je vous dirais que ces gens-là, j'ai pas mal plus peur d'Ortega puis de Bolsonaro dans une favela qui tire sur tout ce qui bouge parce que c'est la directive présidentielle que Joe la banane sur Twitter a déguisé en Barbara 62, si vous voulez mon avis.
Lors d'une manifestation pour une cause, quelle que soit la cause et quelle que soit la manifestation, ce qui vous dérange, ce sont les amalgames. C'est-à-dire qu'une cause peut être fort louable, on a la permission de manifester, mais vient s'amalgamer à cette cause-là toutes sortes d'autres causes parallèles qui n'ont pas nécessairement... Et ça va du casseur jusqu'à l'évangélisme, pratiquement.
Ouais, les amalgames, hein, ça aussi, ça vient avec... ça vient avec une baisse du quotient intellectuel collectif, malheureusement. Il y a beaucoup de chroniqueurs très forts en gueule qui n'ont pas étudié grand-chose dans leur vie, et ça paraît, hein, franchement. Je voyais juste avant de venir là, tout à l'heure, là, la mairesse Valérie Plante a publié récemment une bande dessinée, ce que j'ignorais. Il dit il y a une épidémie de crack à Montréal, puis la mairesse publie une BD. Je pense qu'un jour il devrait y avoir un cours, hein, sur les sophismes enseigné à l'université intitulé « À l'interstice de l'intersidérité », parce que c'est absolument spectaculaire de dire des conneries du genre au quotidien 6 fois par semaine ou à peu près. Et c'est sûr que ça fait diminuer ce quotient intellectuel, c'est absolument du n'importe quoi. Alors pour le reste, sur les amalgames, nécessairement, puis parlez-en aux musulmans, hein, qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Aussitôt qu'il y a un attentat à travers le monde, on demande aux musulmans de s'excuser. Je sais pas, moi je suis catholique, mais non pratiquant, mais je suis catholique quand même. Quand il y a, je sais pas moi, un scandale en rapport à l'Église catholique, est-ce que quelqu'un me demande de présenter mes excuses? Non, je pense pas. Pourquoi? Parce que c'est quand même pas de ma faute. Alors je vois pas en quoi ce serait la faute de Fatima de Longueuil, ce qui est arrivé, X en Algérie, donc bref.
Vous avez de la difficulté entre cette séparation entre le « nous » et le « eux » ?
Énormément. Moi, vous voyez, c'est drôle parce que les gens me qualifient de fédéraliste. Parce que, c'est un fédéraliste, un multiculturaliste. Or, la manière que je me définis, sur la question nationale, ma tête n'est pas claire encore. Je serais prêt à devenir souverainiste assez aisément, je pense. Mais avec à une condition. Puis là, ils disent, on n'a pas de condition à donner. Moi, j'en donne une quand même. Si vous voulez faire l'indépendance pour mieux chasser des immigrants, je vais pas embarquer dans votre projet, ça m'intéresse pas. Par contre, un projet souverainiste à la Jacques Couture, à l'époque, hein, qui était lui-même un grand catholique, vous l'avez peut-être connu.
Il était un jésuite.
Et puis c'était un fervent, mais il n'y a pas eu beaucoup de ministres d'immigration plus inspirants que Jacques Couture. Rappelez-vous, les bold people vietnamiens, c'est lui et l'évêque qui ont mis de la pression sur Trudeau à Ottawa. Il dit, si vous les acceptez pas, on s'en fout, nous, on va les accepter. Et Kim Thuy est débarqué d'ailleurs de ce bateau-là, vous connaissez l'histoire.
Tout à fait.
Et à ce que je sache, René Lévesque était un souverainiste, Jacques Couture aussi, Jacques-Yvan Morin souhaitait l'abrogation de la disposition de dérogation dans la Charte québécoise pour ne pas nuire aux droits. René Lévesque disait, des droits, ça s'enlève pas, ça se donne. Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que on a déjà eu une autre vision, il n'y a pas si longtemps que ça, là, j'étais tout petit, mais quand même, une autre vision d'un Québec, non pas replié sur une espèce de nombril absurde, mais plutôt ouvert sur une comment je dirais, sur un humanisme qui l'honorait, et il y a moyen de combiner un et l'autre. Et c'est ça qu'on a perdu depuis quelques années. Donc, ça pour dire, le nous, le eux, comment le eux, qui eux? Je dis, c'est qui ça? Puis on est, en tout cas, bref, vous voyez un peu où je m'en vais avec ça.
Oui, Frédéric Bérard, vous avez écrit dans une chronique de février 2023.
Oh, ça va être dangereux, ça.
Ouais, mon Québec, il est complexe, pluriel et humaniste. C'est celui-là que j'aime.
Ouais.
Est-ce que vous trouvez que le Québec présent est à la hauteur de vos attentes?
Non, pas du tout. Regardez, par exemple, la question du droit au sol, hein, quand on refuse aux immigrants, aux demandeurs d'asile, le droit aux garderies subventionnées, qu'on leur refuse ceci, ça a pris l'intervention des tribunaux pour dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Imaginez-vous René Lévesque faire un truc du genre, Robert Bourassa, Lucien Bouchard, mais on est tombé en bas de l'autobus, là. C'est grave, là, de faire des trucs. Et on contrevient aux conventions internationales.
Êtes-vous optimiste pour l'avenir?
Selon vous.
En tout cas, vous êtes de bonne humeur.
Ouais, ben, je suis de bonne humeur, oui. Ben, j'ai pas le choix, hein, sinon je ferais une dépression. Mais c'est pas parce que je suis de bonne humeur que je suis optimiste. Je vous disais tout à l'heure, hein, la citation de Camus. On a le choix entre un fou et un lâche. Ben, je sais pas si j'ai choisi comme tel d'être un fou. Je me pose pas ces questions-là. Mais est-ce que si nous sommes réalistes, on peut se dire que ben voilà, tout va bien, on va passer un peu de papier sablé, puis ça sera parfait. Ben non, c'est pas vrai. Les démocraties occidentales sont actuellement sous tutelle, ont été kidnappées. Le réchauffement climatique s'ajoute à ceci. L'ONU vous le dit, puis ça, c'est des chiffres qui ont été reconnus par la communauté scientifique. Il y aura 220 millions de réfugiés climatiques à travers la planète d'ici 2050, pas en 2050, d'ici 2050. Et ça, si on stoppait l'hémorragie immédiatement. Qui va payer le prix de ce réchauffement climatique? C'est pas les sociétés riches. C'est évidemment les sociétés plus vulnérables. Par exemple, plusieurs pays en Afrique. D'ailleurs, c'est déjà commencé avec l'érosion. Il y a des kilomètres qui se perdent à chaque décennie. En corollaire de tout ça, vous avez une montée de l'extrême droite où on vend des ministères de la rémigration. Le Royaume-Uni, qui a toujours été quand même un défenseur des libertés publiques, là, envoie des réfugiés en avion au Rwanda. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez l'Allemagne actuellement qui est aux prises avec des nazis au Parlement. C'est sorti encore la semaine dernière dans le Washington Post. Vous avez peut-être vu des nazis en Allemagne avec l'AFP, qui est le parti d'opposition qui devrait prendre le pouvoir éventuellement, qui veut foutre à la porte tous les immigrants du pays, même ceux qui ont leur citoyenneté. Mais c'est parce qu'on est en train de rejouer dans le même film, là. On est en 1933 et demi, là. Puis 34, ben c'est dans 6 mois. Alors, non, je suis pas optimiste. Par contre, est-ce qu'on a le droit de baisser les bras? Non, je pense pas non plus. J'ai une fille de 22 ans. Puis ne serait-ce que pour elle et pour sa génération, hein, il va falloir se battre jusqu'au bout.
En mars 2023, Frédéric Bérard, vous avez publié aux éditions Saint-Jean « J'accuse les tortionnaires d'Omar Kader ».
Ouais.
Pour ce faire, vous vous êtes même infiltré à l'intérieur de Guantanamo. Mm-hmm. Est-ce que c'est pire que ce qu'on peut imaginer?
Ça l'est. J'ai été... Quand je suis revenu de Guantanamo, je vous dirais que je suis tombé dans un trou noir au sens figuré, évidemment. J'en ai eu pour... C'est beaucoup mieux maintenant, mais vous voyez, ça va faire 2 ans cet été. J'ai un trou noir absolument, parce que et puis j'ai pas été torturé évidemment. Bon, ils m'ont menacé un peu de rester là-bas, que je pourrais plus repartir, puis que j'étais surveillé à temps plein, puis surveiller mes trucs. Bon, ils m'ont fait la totale, là, la totale, pas la totale parce que bon, j'aurais pu me torturer au sens fort. Mais bon, j'étais là parce que j'avais une raison d'y être. Je voulais voir l'ennemi de l'intérieur, la bête de l'intérieur. J'étais très chanceux parce que je sortais avec un paquet d'informations que j'aurais pas pu obtenir autrement. Par preuve, ça faisait 6 ans et demi que je travaillais sur le projet, puis j'avais jamais mis la main sur ces informations-là. Mais ouais, je suis sorti de là un peu... Si l'injustice vous affecte, vous pouvez pas aller à Guantanamo puis vous en sortir indemne. Et celui qui m'avait dit ça, en fait, pas dans ces mots-là, mais ça revenait à ça, c'est Denis Sedney. C'est un très grand homme qui est décédé récemment en février ou en janvier. C'était l'avocat d'Omar Kader. Puis rappelle-toi de ceci. Si tu vas à Guantanamo, tu vas y rentrer, quand tu vas en sortir, tu seras plus jamais la même personne. Et il n'y a rien de positif là-dedans. Et vous savez quoi? Je pense qu'il avait raison.
Les tortionnaires dont vous parlez, Omar Khadr, sont toujours en liberté?
Bien sûr. C'est Stephen Harper qui est le tortionnaire principal dans ce cas-ci. Vous parlez de ne pas faire l'unanimité. Vous voyez, ça me fait énormément plaisir de ne pas faire l'unanimité avec ces gens. Stephen Harper est le premier responsable de cette histoire-là parce que la trouvaille clé que j'ai pu faire en allant à Guantanamo, que j'avais pas réussi à faire avant, c'est que les Américains n'ont jamais eu l'intention de faire condamner Omar Khadr, et mieux que ça, ils ont même jamais eu l'intention de l'accuser, imaginez donc, jamais. Ce qu'ils pensaient faire, c'est le classique, c'est-à-dire on envoie le jeune à Guantanamo, on lui chauffe les oreilles, son père est un ami de Ben Laden, ni plus ni moins un de ses bras droits, en tout cas, et sachant évidemment que c'est un enfant soldat, une coupe de baffe, torture et tout, il va parler, bien évidemment. Et le Canada va lever le drapeau, dire « OK, ça suffit, ramenez-moi mon enfant soldat. » Et puis voilà. La réalité, c'est quand ils sont arrivés pour faire ça, comme ils ont fait pour la plupart des ressortissants étrangers, hein, ça vous le savez, en France, en Belgique, bon, un peu partout. Mais pour faire une histoire courte, tous les ressortissants de Guantanamo ont été rapatriés, ou en fait expulsés dans leur pays d'origine, ni plus ni moins, sauf Khadr ou à peu près. Là, je me dis « Mais c'est pas possible, ça. » Et la réalité, c'est que les États-Unis voulaient le retourner, mais c'est Stephen Harper qui voulait pas. Et ça, je l'ai su parce que, notamment, Hillary Clinton est allée dire, « Maintenant, on veut le retourner, votre client au Canada, mais votre premier ministre veut pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? » Et quand j'ai sorti cette révélation-là, c'était dans le Globe and Mail de mars 2023. Je m'attendais à ce que Stephen Harper réplique pour dire « C'est qui ça, Bérard? » Il dit n'importe quoi, parce que le journaliste tenait absolument à voir sa version. J'ai dit « Il me semble qu'il y en a eu assez de versions d'Harper depuis 15 ans. C'est pas si grave s'il y en avait pas pour une fois. » Il dit « Non, j'y tiens. » J'ai dit « OK, ça va. » Eh bien, vous savez, ça a été quoi la réponse de Harper? « Je n'ai jamais caché mon refus de rapatrier ce terroriste. » En d'autres termes, ce n'est même plus un secret. Il s'en vante. C'est à cause de lui que l'enfant soldat n'a pas pu être rapatrié, puis c'est pas ce qu'il nous disait à l'époque. Évidemment, il disait, c'est un terroriste, il est accusé de crimes graves. On voyait évidemment le classique.
Au moment où, je change complètement de sujet pour terminer, au moment où Félix Rose sort un documentaire sur Offenbach et Corbeau, vous êtes, vous, à vous préparer à publier quelque chose sur Offenbach? C'est un loisir, ça?
Hey, ça fait du bien de parler à des journalistes préparés. C'est fantastique, merci. Oui, j'ai bientôt fini, je sais pas, là, je suis rendu après le premier spectacle de 1980. Je suis l'avocat de Jean Gravel, Johnny, un des cofondateurs avec Jerry. Puis on a ce projet-là depuis maintenant l'été dernier. Qui avance très bien. On a, je sais pas loin de 200 pages bientôt. Et Félix, je lui ai parlé. Oui, je savais. Puis j'ai reçu les liens. J'ai commencé. Là, je dois compléter ça en fin de semaine. Oui, c'est un loisir. Je suis musicien. Aussi, je joue un groupe pendant un petit bout de temps. Là, pas, évidemment, rien à voir avec Offenbach, mais beaucoup, beaucoup d'amour et d'admiration pour ce groupe-là qui a inventé le rock en français, qui a été le premier à jouer au Forum dans la salle semi-complète. Ils l'ont fait 4 fois. Et c'est un groupe complètement dysfonctionnel, comme beaucoup de bandes ben rock, vous me direz, mais dans ce cas-ci, là, c'était vraiment particulier. Et en filigrane, l'évolution de la société québécoise dans des années d'effervescence assez spectaculaire, hein, les années 70, le référendum de 80, jusqu'en 85. Et vous avez toute cette espèce de métamorphose sociétale. Et vous avez des acteurs qui jouent dans une pièce pour laquelle ils ne connaissent même pas le scénario au final.
Ils le construisent au fur et à mesure.
Sans le savoir.
Oui. Frédéric Bérard, merci beaucoup pour cet entretien. Bonne continuation et bon salon.
C'est moi qui vous remercie. C'était franchement très agréable et fantastique. Merci.
Merci bien. C'est le moment de vous livrer ma chronique sur un élément de l'actualité d'ici ou d'ailleurs, une opinion que j'assume totalement et qui n'engage que moi et moi seul. Le climat au Moyen-Orient, qui gronde toujours, s'est envenimé dans la nuit de samedi à dimanche dernier, alors que l'Iran lançait ouvertement une offensive de drones et de missiles sur Israël. Tous les observateurs bien informés s'y attendaient depuis l'attentat du 1er avril contre le consulat iranien à Damas, en Syrie. Téhéran a aussitôt accusé le gouvernement israélien qui n'a ni confirmé ni exclu sa participation à cette opération qui a fait de nombreux morts. Le phénomène n'est pas nouveau. Les deux pays se sont attaqués mutuellement dans de nombreux cas depuis des années, sans que l'un ou l'autre n'admette officiellement son implication. À titre d'exemple, on remonte loin, 1992, le groupe du djihad islamique, proche de l'Iran, a fait exploser l'ambassade d'Israël à Buenos Aires, tuant à ce moment-là 29 personnes. Pas longtemps avant cet événement-là, le chef du Hezbollah, une force alliée à l'Iran, avait été assassiné. Un attentat largement attribué au service de renseignement israélien, mais pas réclamé nécessairement. Alors, il était facile, dans les circonstances, d'établir la corrélation entre les deux événements. Mais dans la nuit de samedi à dimanche dernier, lors de la riposte de l'Iran, plus de 200 drones, missiles de croisière, missiles balistiques ont été lancés, dont la grande majorité, semble-t-il, ont été interceptés avant qu'ils n'atteignent le territoire israélien. Je ne suis pas spécialiste en politique du Moyen-Orient, loin de là. Pour comprendre un peu cette escalade des attaques, j'ai eu besoin de me replonger dans l'histoire. Les relations entre Israël et l'Iran étaient plutôt cordiales jusqu'à ce que la révolution dite islamique des ayatollahs prenne le pouvoir à Téhéran en 1979. Ça fait autour de 45 ans. La révolution qui a renversé le régime du Shah et imposé une république islamique rejetait l'impérialisme américain présent dans la région du Moyen-Orient et surtout allié à Israël. Le nouveau régime se présentait comme le défenseur des opprimés dont faisaient partie les Palestiniens en conflit avec l'État d'Israël. Les manifestations anti-israéliennes sont devenues monnaie courante à Téhéran. Avec le temps, après le conflit qui opposa l'Iran et l'Irak, Israël a commencé à considérer l'Iran comme l'un des principaux dangers pour son existence, tandis que l'Iran, de son côté, considère Israël, appuyé par les États-Unis, comme l'ennemi qui entrave sa croissance en tant que puissance régionale. La grande peur d'Israël, jusqu'à l'obsession même, c'est le programme nucléaire iranien. Comme George W. Bush a eu peur des missiles, j'oublie l'expression exacte, là, mais vous vous souvenez sans doute de cette histoire-là qui avait déclenché toute une guerre. Depuis les attaques du 7 octobre 2023, du Hamas contre Israël et l'offensive militaire massive lancée par l'armée israélienne en représailles à Gaza, tous craignent que ce conflit ne provoque une réaction en chaîne dans la région et une confrontation ouverte et directe entre Iraniens et Israéliens. Les escarmouches entre les forces israéliennes et les miliciens prétendument rattachés au Hezbollah, Hezbollah qui est allié à l'Iran, bien sûr, à la frontière du Liban, se sont multipliés ces derniers mois. On s'agace de part et d'autre. Il en va de même pour les affrontements avec les manifestants palestiniens en Cisjordanie. Cisjordanie occupée, on le sait. Jusqu'à présent, l'Iran et Israël ont évité l'escalade de leur hostilité et les combats à grande échelle. Mais voilà que samedi dernier, ça prenait une autre ampleur. L'attaque contre son siège diplomatique à Damas, qui a fait 13 morts au 1er avril, a particulièrement choqué Téhéran, qui a promis de punir l'agresseur. Les observateurs demeuraient aux aguets. Quelle forme allait prendre la punition? Ben, la riposte est attendue et venue dans cette nuit de samedi à dimanche dernier. Les gardiens de la révolution iranienne indiquent que l'offensive est liée aux crimes répétés d'Israël, notamment, et justifiée par son droit à exercer une légitime défense. Quand je dis son droit, c'est le droit de l'Iran à exercer une légitime défense. Le même argument qu'invoquait Israël vis-à-vis le Hamas à Gaza depuis le 7 octobre. Dans les deux cas, le plus fort veut anéantir le plus faible et il y aura escalade. Après l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël, le chef suprême de l'Iran a salué ce qu'il a appelé un tremblement de terre dévastateur pour Israël, ajoutant « Nous baisons la main de ceux qui ont planifié cette attaque. Le soutien de l'Iran à l'endroit du Hamas et contre Israël ne pouvait être plus clair, plus évident. Nous espérons le soutien des États-Unis à Israël, ainsi que celui du Royaume-Uni, de la France et des nombreux pays », a déclaré Benjamin Netanyahou, premier ministre d'Israël, qui a convoqué son cabinet de guerre pour planifier la riposte à l'Iran. En effet, tous ces pays et le Canada ont condamné cette attaque de l'Iran. Y aurait-il un piège tendu par l'Iran à l'Occident? Depuis quelques semaines, tous ses alliés d'Israël faisaient pression pour que cessent les bombardements d'Israël sur Gaza et sa population civile. Les Iraniens, en appui au Hamas, obligent les alliés à se commettre en faveur d'Israël, devenant ainsi complices de l'instabilité de la région et du massacre des Palestiniens de Gaza, suscitant, par le fait même, la colère des pays arabes. Voilà le piège. En appuyant Israël, l'Occident se met à dos, ou se mettrait à dos, le monde arabo-musulman. C'était mon opinion. Bonjour Nancy Gamache.
Bonjour.
Vous êtes conseillère en développement des affaires et en formation à la Faculté de théologie et de sciences religieuses. Vous précisez que vous n'enseignez pas à la faculté. Quel est le rôle de la conseillère en développement des affaires et en formation?
C'est une grande question. En fait, je suis arrivée à la faculté il y a environ un an passé. La conseillère en développement des affaires développe de la formation. Nous avons reçu...
Donc, c'est un poste qui existait.
C'est un poste, non. Un nouveau poste. Un nouveau poste. Donc, il se crée à tous les mois. Au fur et à mesure que j'avance dans le poste, il se crée. Ce qu'on souhaite, c'est de développer de la formation continue qui est dédiée aux professionnels de la santé.
Précisément ceux-là.
Oui, précisément les professionnels de la santé, les personnes et les personnes proches aidantes, ainsi que les bénévoles. Ce poste a été créé avec le fonds que nous avons reçu des Augustines il y a quelques années passées.
Et donc, vous développez ce qui pourrait devenir un programme, une formation continue?
En fait, oui, c'est ça. On veut développer un aspect plus grand de la formation continue. On offre différents modules de formation continue à la faculté, mais on aimerait aller un petit peu plus loin et précisément sur la spiritualité, l'éthique et le soin, la santé.
Donc, vous êtes responsable de la journée de ressourcement. C'est responsable ou coordonnatrice, en fait, de la journée de ressourcement et de perfectionnement qui va se tenir le 2 mai prochain au monastère des Augustines, justement, vos donatrices.
Tout à fait, oui.
Oui. C'est proposé aux professionnels de la santé, vous l'avez mentionné, c'est sur le thème de l'éthique et de la spiritualité dans les soins. Vraiment réserver cette journée-là, c'est réservé. Faut faire partie des professionnels de la santé, de ceux qui assurent des soins. On peut pas aller là en observateur.
Ben, vous pouvez, si vous le souhaitez, mais en fait, les conférenciers, les conférencières invitées proviennent soit de la faculté de sciences sociales, soit de la faculté de théologie de sciences religieuses ou de la faculté de sciences infirmières. Donc, ils avaient comme mandat, les personnes conférencières, de développer soit des ateliers interactifs ou des conférences qui, justement, répondent aux besoins des professionnels de la santé. On sait que les thématiques, l'éthique et de la spiritualité sont des thèmes quand même de plus en plus populaires, mais les professionnels de la santé ont de moins en moins de chances ou très peu d'opportunités d'en discuter et d'y réfléchir, et surtout de penser leurs pratiques professionnelles et de voir comment on peut intégrer la dimension spirituelle et éthique dans leurs pratiques. Donc, on veut vraiment développer ou travailler l'humanisation des soins. Donc, s'éloigner un peu de l'acte en soi ou de soigner le patient plutôt que la maladie.
À vous entendre, on pourrait avoir l'impression, en partant de nos schémas anciens, que c'est une formation ou que ce sont des ateliers, une journée de ressourcement qui s'adresse aux personnes qu'on appelait autrefois les aumôniers et qui peuvent être aujourd'hui considérés comme des accompagnateurs ou spirituels ou... Ben, mais c'est pas qu'à ces gens-là que vous adressez aux infirmiers, aux infirmières, aux préposés, aux bénéficiaires, vous adressez à tout le monde.
Tout à fait. Les intervenants en soins spirituels sont les bienvenus. Il y en a d'ailleurs déjà quelques-uns d'inscrits. Mais on parle des psychologues, on parle des infirmières et des infirmiers, des gestionnaires également dans le réseau de la santé. Donc, ça s'adresse vraiment à une multitude de professionnels de la santé. Et ce qu'on met, c'est l'interdisciplinarité. Donc, oui, il y a l'intervenant soins spirituels que l'on peut appeler lorsqu'on est dans le réseau, mais comment on peut travailler ensemble et comment on peut avoir un réseau plus humain. Donc, et c'est un petit peu vers ça que la formation continue, cette journée de développement professionnel se dessine ou se concrétise.
La formation que vous proposez, en formation continue, cette journée de ressourcement, viendrait pallier à, parce que ça provient de la faculté de théologie et de sciences religieuses, c'est comme si ça venait pallier à un manque dans les autres facultés, c'est-à-dire que ceux qui se sont formés en médecine, en soins infirmiers et peu importe, en sociologie ou autre, ne recevaient pas vraiment cette formation-là. C'est pour ça que la faculté de théologie et de sciences religieuses viendrait supplier.
Ben, j'aime ça ce que vous dites, oui. On aimerait effectivement jouer ce rôle-là avec les différentes facultés, que ce soit la faculté de pharmacie, de médecine, de sciences infirmières. D'ailleurs, on travaille déjà sur des projets pilotes avec différentes facultés à l'Université Laval. Donc, on est très actifs dans ce domaine. Et effectivement, on parle beaucoup de relations d'aide, mais on parle aussi beaucoup de nos personnes soignantes. Et on aime les appeler nos personnes soignantes, comme on aime appeler nos patients nos personnes soignées et la relation soignante. Et c'est ce qu'on veut travailler avec les professionnels de la santé.
Je reviens à l'idée que est-ce seulement le personnel de la santé, vous l'avez élargi un tout petit peu, les proches aidants et d'autres, mais tout le personnel qui s'occupe des itinérants, les travailleurs de rue, est-ce que ces gens-là pourraient avoir intérêt à votre...
Tout à fait. Nous, on invite dans le fond tous ceux qui sont de près ou de loin travaillent avec les personnes proches aidantes, que ce soit au niveau de la santé mentale, au niveau de l'itinérance. D'ailleurs, toute notre promotion, notre stratégie de marketing en lien avec cette journée de développement professionnel, on a fait suivre aussi dans les organismes à but non lucratif. Mais parfois, c'est ça, on doit choisir. Il y a une grande offre de services au niveau des journées de développement professionnel, mais on invite aussi ces personnes-là à participer.
Ceux qui seraient intéressés, parlons de cette journée, le mm-hmm. contenu de cette journée du 2 mai. Vous l'avez structuré autour de trois axes ou trois thèmes. Vous pouvez élaborer sur chacun d'eux. On dit, vous avez un peu mentionné ça tout à l'heure, là, mais la spiritualité au cœur de l'expérience de la personne soignée, de la personne soignante et au cœur de la relation soignante.
Oui.
Celle-là est plus obscure un peu.
Oui,
ou plus abstraite, ou en tout cas.
Oui, tout à fait, mais elle fait un lien aussi avec tout le plan gouvernemental dans un réseau plus humain, le réseau de la santé et des services sociaux. En fait, ce qu'on souhaite, nous, développer, c'est travailler avec les gens ou co-construire avec les participantes et les participants ces différentes approches et concepts propres au champ de l'éthique et de la spiritualité. Et c'est pour ça qu'on veut aborder la relation soignante. Donc, tantôt, quand je vous disais que on veut soigner le patient et non juste la maladie, mais c'est un petit peu là où on va aller. Donc, réfléchir à comment nous, en tant que professionnels de la santé, on peut travailler ou être auprès du patient, puis en même temps dans le respect des croyances, des valeurs, de l'épanouissement de la personne soignée. Donc là vient s'inscrire la relation soignante entre le soigné et la personne soignante.
Vous qui jouez avec ces concepts quotidiennement, ça vous est probablement très familier, mais qu'est-ce qu'on doit entendre par éthique et spiritualité dans le cas de l'application des soins?
C'est assez complexe. Qu'est-ce qu'on peut entendre? En fait, la spiritualité, c'est une dimension spirituelle. Et je voudrais pas trop élaborer là, parce que dans le fond, on a des conférenciers qui vont aller et travailler avec nos participantes et nos participants, et l'éthique aussi. Mais lorsqu'on parle des enjeux éthiques dans la profession, que ça soit un enjeu éthique en lien avec la personne professionnelle, mais aussi tous les enjeux éthiques qu'une personne, la personne soignée peut vivre. Donc, on aborde la spiritualité dans une dimension. Et on l'explore avec, dans le fond, les professionnels de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Parce qu'il y a mille et une définitions et nous, on ne veut pas proposer de définition. C'est vraiment notre rôle de l'amener avec eux, de le co-construire avec eux pour ce qui fait du sens. Donc, on parle de quête de sens, on parle de sens dans la relation, on parle de sens dans ma profession, on parle de sens en tant que personne soignée. Comment est-ce que je peux recevoir mes soins? Donc, être pris en charge, mais dans une culture de soins et dans une organisation soignante.
Mais est-ce que la personne, je veux dire souffrante, qui relève d'une opération chirurgicale ou qui est entrée à la suite d'un traumatisme de santé quelconque, est-ce qu'elle est en mesure de partir cette réflexion-là? Est-ce qu'il faut quelqu'un à côté, un accompagnant, qui va susciter la réflexion, qui va l'amener à réfléchir?
On rentre dans quelque chose de très intéressant. En fait, la personne peut faire appel à un intervenant en soins spirituels dans le réseau de la santé. Toutefois, nous, on n'est pas là. La journée de développement professionnel ne propose pas que la personne professionnelle de la santé remplace l'intervenant en soins spirituels. On propose tout simplement une sensibilité, une familiarisation aux questions éthiques et aux questions de la dimension spirituelle de la personne soignée. On comprendra que si, admettons, une personne sort de chirurgie ou pour l'ablation d'un membre ou quoi que ce soit, ben l'approche est importante. Et l'approche, comment est-ce qu'on peut la vivre? Bien, ce sont là des questions, en fait, que les professionnels de la santé vont pouvoir poser à nos personnes conférencières et elles vont pouvoir en discuter. Ce qui est différent avec notre journée de développement professionnel, c'est qu'on part de leur pratique pour faire des liens avec la théorie. Souvent, on va dans une journée de développement professionnel où ce sont des conférenciers qui nous partagent toutes leurs connaissances et leurs compétences. Nous, dans le fond, on a misé sur l'inverse. Donc, on va partir des expériences des professionnels pour co-construire avec ces personnes-là leur dimension spirituelle, la leur, mais celle de la personne soignée qui va en même temps tracer le portrait de la relation.
Est-ce que ça signifie que vous avez déjà recueilli auprès de ceux qui sont inscrits ou auprès de gens qui sont en milieu hospitalier, vous avez déjà recueilli leurs questionnements pour le présenter aux conférenciers afin qu'ils ajustent leur conférence?
On est en train de regarder plus les personnes qui se sont inscrites pour justement le partager avec les conférenciers et conférencières et ça se fait la semaine prochaine. Donc là, on attend vraiment les inscriptions pour que les gens puissent s'inscrire. Puis à partir de la semaine prochaine, là, on va commencer à justement tracer le portrait des inscrits pour être en mesure d'offrir une journée de développement professionnel qui répond aux besoins des professionnels.
Je reviens à l'idée que c'est la faculté de théologie de sciences religieuses qui est à la base de tout ça. Dans quelle mesure cette dimension de l'éthique et de la spiritualité est accrochée aux religieux?
Il y en a pas. En fait, ça peut être religieux comme ça peut ne pas l'être. Ça dépend de la personne. Chaque professionnel va arriver avec ses propres croyances et ses propres valeurs et sa propre religion. Nous, on n'est pas là pour faire, pour jaser de religion ou d'une spiritualité quelconque. On est là pour vraiment travailler la dimension spirituelle et la dimension éthique, que ce soit les enjeux en lien avec la profession.
Comment avoir une... ce qu'on appellerait une réflexion critique, si on veut, sur les dimensions éthiques et spirituelles au cœur de la pratique des soins. C'est-à-dire que chaque individu, du médecin soignant au brancardier ou à la personne qui vient assister, là, en passant par toute la gamme des infirmiers, infirmières et préposés, tout ce qu'on veut, dans quelle mesure il doit y avoir continuellement une réflexion critique sur cette pratique-là.
Dans quelle mesure? Je ne saurais répondre, je ne suis pas une personne professionnelle de la santé, je développe la formation avec des experts autour de moi. Ça serait une question à leur poser, en fait, parce que je ne crois pas que j'ai l'expertise pour y répondre.
Oui, parce que ma question venait du fait, je l'ai peut-être mal posée aussi, venait du fait que, et là c'est par le biais d'une télésérie qui nous parle un peu des soins de santé, et on voit le niveau de bousculade qui arrive dans ce milieu-là. Est-ce qu'on est toujours tellement pressé, tellement bousculé par les cas qui se présentent et les cas si différents qu'on a le temps de s'arrêter à cette réflexion critique?
Je pense pas qu'on a le temps, mais je pense qu'on devrait prendre le temps. Et c'est ce que les professionnels de la santé, pour travailler avec quelques-uns, nous disent. Vous savez, le monastère des Augustines offre des ateliers d'accompagnement et de séjour, de répit pour le personnel soignant et les proches aidants. Mais dans un monde où les défis en soi évoluent constamment, il est impératif de réfléchir à une organisation soignante. Et lorsqu'on parle d'une organisation soignante, on peut penser à justement nos professionnels de la santé. On peut penser aux coordonnateurs, aux gestionnaires qui gèrent ces personnes-là aussi, que ce soit des infirmiers, des travailleurs sociaux. Et on veut mettre en lumière l'importance du développement professionnel dans ce domaine-là. C'est assez innovateur, je vous dirais. C'est notre première édition. On en a jasé beaucoup avec la faculté de sciences infirmières, entre autres, parce qu'on a un projet pilote en développement avec eux. On y croit. On croit que les gens peuvent être intéressés à cette formation de développement professionnel.
Oui. Ça c'est pour la journée du 2 mai, hein, oui. Disons, là, cette rencontre du 2 mai, mais votre projet d'une formation continue, c'est sur pied, c'est déjà lancé, c'est assez bien organisé?
Ça s'organise,
c'est en train de s'organiser.
Oui, on développe, là, je nomme pas des noms ici, mais on développe présentement deux modules de formation pour un organisme en santé mentale, en lien justement avec l'éthique et la spiritualité. Et avec eux, on offre une formation sur mesure qui va être offerte cet automne et à l'hiver prochain. Donc, chaque petit pas est important. Nous avons aussi un balado qui va sortir, un balado avec un expert, Guy Jobin, professeur à la faculté, avec qui je travaille d'ailleurs beaucoup sur ce projet de formation continue. Donc, on a différents volets de formation qui se développent, mais c'est tout nouveau. On a un plan d'action également qui a été rédigé cet été, donc au début de l'automne, qui s'appelle « Éthique et spiritualité dans les soins », où on a trois objectifs, trois grandes orientations. Et une des orientations, c'est justement d'avoir une meilleure compréhension de la spiritualité dans le soin. Puis on aimerait souvent définir la spiritualité ou de la mettre dans un petit casier puis dire, ben voilà, je viens traiter de la spiritualité avec toi.
Vos pilules, plus tard.
Ben voilà, mais c'est pas ça, la spiritualité. C'est une dimension, c'est actif, c'est dynamique. Donc, et c'est là où on veut travailler cette essence-là avec les professionnels de la santé. Puis on veut surtout pas apporter un carnet puis dire, OK, j'ai coché, j'ai parlé avec la personne, puis j'ai parlé de spiritualité. Donc, on n'est pas là. On est vraiment dans une dynamique.
Cette formation continue, elle est conçue essentiellement pour être virtuelle ou si vous pensez réunir des gens dans une classe?
On y réfléchit. Vous savez, depuis la pandémie, le post-pandémie, les besoins sont différents, ou du moins les gens veulent une offre de formation qui est un peu différente. C'est ce qu'on a appris avec différents sondages qu'on a menés. Parce qu'avant de développer, il faut sonder le terrain.
Il faut s'informer, oui.
C'est ça, il faut s'informer. C'est ce que j'ai fait les premiers 6 mois de mon mandat. Donc, et on est là, on est en train de s'adapter avec les besoins des personnes qui sont sur le terrain. Nous, ce qu'on veut, c'est de répondre aux besoins des personnes qui sont sur le terrain. On veut pas développer de la formation pour développer de la formation. Donc, si une série de 3 conférences à différents moments d'une session, c'est ce qui plaît aux gens, c'est ce qu'on va développer pour eux. Ce qu'on souhaite, par contre, c'est vraiment de poursuivre le développement professionnel, le perfectionnement professionnel, des personnes professionnelles.
Le 2 mai au monastère des Augustines, c'est autour d'une douzaine de conférenciers, de spécialistes qui vont se présenter. Comment va se dérouler cette journée-là? Est-ce que les gens inscrits vont écouter à la file ces 12 personnalités-là qui vont venir parler 20 minutes, 30 minutes ou 40 minutes?
Non, pas du tout. En fait, il y a une conférence d'ouverture justement avec Guy Jobin, un professeur à la Faculté de théologie et de sciences religieuses. Par la suite, la journée est divisée en 3 blocs. Donc, le premier bloc, on y retrouve différents conférenciers. Les inscrits doivent choisir parmi différents conférenciers. Donc, il y aura, on les appelle des conférenciers, mais en fait, ce premier bloc, ce sont des ateliers interactifs. Donc, c'est là, tantôt, quand je vous disais qu'on allait partir de la pratique des professionnels, c'est ce qu'on va faire pendant l'avant-midi. L'après-midi, elle est divisée en 2 blocs, c'est-à-dire le premier bloc, c'est davantage une conférencière, un peu plus comme on connaît.
Traditionnelle,
oui, c'est ça. Puis la fin de la journée, elle est réservée strictement aux inscrits, c'est-à-dire qu'on offre un forfait ressourcement. Donc, la fin de la journée, on termine avec une activité, une conférence sur la pleine conscience et une activité d'autocompassion de pleine conscience avec un journal intégratif et un partage social. Donc, en fait, et ça fait aussi, si on retourne à nos axes thématiques, on parlait de la personne soignée, de la personne soignante et de la relation. Bien, nos ateliers, comme nos conférences et le forfait ressourcement, on fait le lien avec la personne soignée, la personne soignante et la relation. On termine dans la relation avec eux.
Voilà. Le cercle est fermé,
ça.
Est complet.
Tout à fait.
Éthique.spiritualité.santé.ftsr @Université Laval, c'est le site où on peut avoir de l'information et on peut s'inscrire.
En fait, c'est le site où on peut avoir de l'information. Mais la publicité, en fait, la promotion, elle est là. Là, j'ai pas le lien exact pour l'inscription,
mais c'est sur ce site-là.
Si vous m'écrivez là, moi, je vais vous répondre assurément. Oui.
Nancy Gamache, qui est la conseillère en développement des affaires et en formation à la Faculté de théologie et de sciences religieuses, coordonnatrice de l'événement du 2 mai prochain au monastère des Augustines, alors je vais le dire comme il faut, un lieu prédestiné pour tenir bien sûr cet événement. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est des pères et des mères. Docteur brancardier, aide-soignante, infirmière, agent de sécurité, qui ont mille raisons de rester confinés, mais leur propre raison de ne pas laisser tomber. Ils nous donnent du temps, du talent et du cœur, oubliant la fatigue, la peur, les heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à leur tâche chaque jour, sans même attendre un merci. Sauve des vies.
Pour tout commentaire, question, suggestion, appréciation, vous pouvez le faire à entre nous avec un trait d'union @ radiogalilée.com. C'est ainsi que se termine cette émission d'Entre nous aujourd'hui. Merci à mes invités Michel Nadeau, Frédéric Bérard et Nancy Gamache. Merci à Yannick Caron pour sa prise de son et la mise en onde. Recherche et entrevue Yves Houd. Merci à vous tous et toutes qui étiez à l'écoute et je vous donne rendez-vous mardi prochain, 13h, pour une autre rencontre Entre nous.